Fabrice vous l'a dit, cet avant-dernier culte de l'année est un culte vision. Et c'est l'occasion pour nous de nous projeter sur 2018 et les années suivantes. Vous le savez, l'Assemblée générale que nous tiendrons le 4 février, c'est un moment important de la vie de notre Église et nous avons à l'ordre du jour cette année le renouvellement du Conseil. Et je vais demander à Benjamin d'afficher le texte duquel nous allons partir. Je partirai d'un petit peu plus haut pour ce qui est de la lecture, mais c'est sur celui-ci que nous nous concentrerons. C'est lui, Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la parfaite stature de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et ce texte, bien sûr, pose un préalable. Le Christ est la tête. Il n'est pas question qu'il en soit autrement et nous ne nous cherchons pas une autre tête que le Christ, le pasteur, les anciens, le conseil ne sont pas la tête de l'Église. Et comme l'a dit, l'a fait remarquer un auteur, l'Église est une christocratie. Et notre job dans ce corps rassemblé, qui est le sien et qui est l'Église, est de discerner sa volonté précise et concrète. Mais le texte que nous avons lu évoque d'autres éléments du corps. Je ne les cite pas ici, mais vous connaissez sans doute le passage où Paul compare les membres de l'Église aux membres d'un corps. Alors les éléments qui nous sont donnés ici ne nous parlent pas vraiment de membres. Nous avons, donc, bien sûr, nous venons d'en parler, celui qui est la tête, Christ. Nous avons les articulations, qui ne sont pas des membres à proprement parler, mais qui lient les membres au corps et les membres entre eux. Nous avons une autre mention d'un corps bien coordonné, et enfin celle d'un corps uni, solidement uni, précisément grâce aux articulations qui lui donnent sa cohésion. Et je pense qu'on peut reconnaître là le rôle d'un conseil d'Église, articuler les membres entre eux et entre eux et l'Église, coordonner l'action du corps, maintenir son unité. Vous le savez, les articulations contiennent des ligaments qui sont extrêmement résistants mécaniquement en traction et pourtant très très souples en torsion ou en flexion. Et cette résistance et cette grande souplesse font que les membres sont solidement attachés au corps. On n'arrache pas facilement un membre du corps grâce au ligament, mais néanmoins, ce membre dispose d'une grande liberté de mouvement grâce à ces mêmes ligaments. Un corps uni, bien coordonné, et troisième chose, la croissance. Et non, on constate ici, la croissance de l'Église n'est pas un mouvement né de ces dernières décennies, une mode qui passera comme les autres. La croissance de l'Église, la croissance du corps de Christ, est inscrite dans les gènes même de l'Église depuis sa fondation, tout comme le corps croît dès sa naissance. Et même lorsque la croissance du corps s'arrête, la croissance physique, il continue de croître en se reproduisant, en donnant la vie à d'autres corps, en un cycle qui fait aujourd'hui de l'humanité un peuple de 7,5 milliards d'individus. Et il n'y a aucune raison objective que l'Église ne suive pas ce mouvement. Paul déclare aux Colossiens que l'Évangile va de progrès en progrès, je cite, grandissant parmi nous et dans le monde. Et enfin, quel est le terreau dans lequel le corps et l'esprit d'un enfant se développent le mieux ? Dans l'attention et dans l'amour d'une famille unie. Les enfants privés d'attention et d'amour ne grandissent malheureusement pas harmonieusement, souffrant de toutes sortes de carences, parfois même dans leur corps. Dans notre traduction, comme dans le texte grec, le mot « amour » vient encadrer ce passage de son baume bienfaisant. Résumons le tableau. Nous avons un corps, l'Église. Nous avons une tête qui est le chef de ce corps. Nous avons des membres très nombreux, très divers. Nous avons entre ces membres et sous l'impulsion de la tête des organes qui unissent ces membres et coordonnent leur activité. Nous avons enfin un but, un objectif, faire croître ce corps dont Christ est la tête. Et comme huile à mettre dans tous les rouages, nous avons ce lubrifiant naturel qu'est l'amour, à utiliser sans modération, aussi bien entre nous qu'envers ceux du dehors. Et donc le conseil de l'Église se place dans ce rôle de coordination des membres, de lien entre eux, et de lien entre eux et le corps, de maintien de l'unité, tout en laissant s'exprimer la diversité, et la poursuite d'un objectif de croissance dans la soumission à la tête et dans l'amour. Dans le corps, certains comparent le conseil au cœur, d'autres au système nerveux, et notre texte cite ici plus particulièrement les articulations, mais on voit bien que cela dépasse leur seul rôle avec ce mot bien coordonné, hein, qui fait quand même ressortir l'idée d'une organisation. Il est un peu tout cela, à l'image de ces organes que nous venons de citer, organes distributeurs, gardiens de la cohésion, pourvoyeurs de cohésion, tous soumis aux directives venues de la tête et aimant résolument le corps, bien décidé à ne négliger aucun de ses membres. Le 4 février prochain, nous renouvellerons notre conseil de diacres pour 2 ans. Plusieurs d'entre nos diacres remettent leur mandat en jeu, désireux de se consacrer 2 ans de plus dans ce rôle auprès du corps. D'autres, au contraire, souhaitent se consacrer de manière plus ciblée à d'autres responsabilités qu'ils ont plus particulièrement à cœur au sein de l'Église. Quels que soient les choix personnels, nous leur sommes reconnaissants pour le travail effectué, pour l'unité qu'ils ont contribué à créer et pour les responsabilités assumées courageusement. Quand je dis « nous », ce sont les anciens, le conseil pastoral, dont le mandat court jusqu'en 2019 et 2020 et qui n'est pas concerné par ce renouvellement de 2018. Aujourd'hui, le conseil des diacres ne compte plus que 9 personnes, que 4 personnes, de 9 qu'il était en 2014. Sur ces 4 personnes, 3 sollicitent le renouvellement par vos votes le 4 février prochain, ce que, bien entendu, nous les anciens approuvons. En réfléchissant sur le contingent de diacres dont il serait nécessaire de disposer pour accomplir sa mission, le Conseil a estimé que 5 seraient un minimum et 8 un maximum. C'est donc sur un complément de 2 à 5 personnes que nous comptons pour atteindre l'effectif visé. Et cette année, nous avons décidé de changer notre manière de procéder. Habituellement, le Conseil proposait au vote de l'Assemblée générale les personnes qu'il avait discernées, avec leur accord bien entendu. L'Assemblée, quant à elle, gardait la possibilité de proposer, le jour même de l'AG, des personnes supplémentaires. Et il est arrivé ainsi que, dans un discernement spirituel particulier, des personnes recueillent assez de voix pour faire partie du Conseil. Cette année, en vue de l'Assemblée générale de février 2018, nous proposons à l'Assemblée d'exercer plus encore son discernement spirituel en émettant des propositions portées à la connaissance de tous en amont, c'est-à-dire à partir de maintenant, mais aussi de l'exercer dans des conditions qui soient à l'image du corps, dans son unité, dans sa coordination, bien coordonnée, dans la soumission à Christ et les uns aux autres. En bref, un corps bien coordonné. Et donc, dès ce jour, vous êtes invités à réfléchir à qui vous allez discerner pour tenir un rôle de diacre et pour accompagner, pour les 2 ans qui viennent, l'Église dans les missions qui lui incombent. Ces missions, quelles sont-elles ? En quoi prolonge-t-elle les missions précédentes du Conseil actuel ? Quels sont les travaux qui attendent le futur Conseil ? Eh bien, nous en avons identifié 3. Le premier, bien sûr, le projet immobilier. Le Conseil sortant aura été le Conseil qui a acheté le bâtiment. Le nouveau Conseil aura à mettre en œuvre les travaux et le déménagement. Ce n'est pas une mince affaire. Deuxième mission, deuxième travail, le projet d'Église, des disciples qui font des disciples. Le Conseil sortant aura été le Conseil qui a élaboré et formalisé le projet d'Église, des disciples qui font des disciples. Le nouveau Conseil aura en charge de le mettre en œuvre. Il aura à le décliner dans tous ses domaines d'application. Il aura à en imprégner chaque strate de l'Église. Il aura à le faire passer de l'état de projet à celui de réalité concrète. Vous savez, l'ADN d'un individu est présent dans toutes les cellules de son corps. Dans chaque cellule, vous trouvez de l'ADN le caractérisant personnellement. Et ainsi, le nouveau Conseil aura à inscrire notre projet dans l'ADN de l'Église. Troisième point, le projet d'Église a un objectif défini, la croissance. Le Conseil sortant a décidé d'engager l'Église dans la croissance. Et ce corps que nous formons ici, tous ensemble, a décidé en Assemblée Générale, a décidé de grandir, se plaçant dans l'obéissance à un ordre donné par Jésus-Christ, notre tête, notre chef. Le nouveau Conseil gardera ce but en ligne de mire. Il ne le sacrifiera pas sur l'autel du quotidien. Il suscitera inlassablement la croissance par ses paroles. Il l'accompagnera par son action. Il la pérennisera par ses choix. Voici donc les 3 missions qui sont le fer de lance des travaux du nouveau Conseil. Et donc, l'Église, dans ce corps rassemblé ici, est appelée à discerner les personnes susceptibles d'accomplir ensemble ces 3 missions et de les proposer comme candidats au vote de l'Assemblée générale du 4 février, avec leur accord, bien entendu. En pratique, comment est-ce que ça va se passer ? Comment passer de la réflexion au sujet de personnes susceptibles d'accomplir ces 3 missions à leur proposition concrète à l'Assemblée. La première chose est à faire individuellement, en prière, la prière individuelle. Placer cette réflexion devant le Seigneur, prendre le temps de l'écouter, lui, créateur et chef de ce corps. Ensuite, exercer un discernement. La Bible ne nous a pas laissé sans critères pour discerner qui est en capacité d'accomplir une fonction diaconale. Et je me contenterai de les lire ici, mais parce qu'ils sont, extrêmement explicites. Les premiers sont tirés d'Actes 6. Ça va être lu dans la version du semeur. C'est, vous le savez bien sûr, les premiers diacres. Comment, dans quelles circonstances sont nommés les premiers diacres et les recommandations qui sont données par les apôtres au sujet de ces premiers diacres. Des hommes réputés dignes de confiance, emplis du Saint-Esprit, de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Le deuxième texte se trouve dans la première épître à Timothée. Il en va de même des diacres. Il en va de même parce que auparavant, ce texte fait suite aux exigences relatives aux anciens. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour un gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Parmi les modalités qui vous seront expliquées tout à l'heure, qui vous seront exposées tout à l'heure, il y en a une sur ce sujet. Il faut, en pratique, être membre depuis plus d'un an, au moins un an, dans notre Église. C'est ça la mise à l'épreuve dont il est question ici. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent, elles aussi, comme les hommes, inspirer le respect. De quelle manière ? Qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Et l'apôtre conclut, car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Qu'ajouter de plus à ces critères bibliques ? Je ne m'y hasarderai pas. Ce sont les critères généraux incontournables. À cependant, tout de même, ne pas confondre avec la perfection. Nous n'espérons même pas avoir au conseil des diacres parfaits, mais ça, je suppose que vous l'avez compris. Et puis nous avons défini une seconde liste. Ça, ce sont donc les critères généraux, les critères bibliques. Et puis nous avons défini une seconde liste de critères qui incombent, qui sont de critères particuliers, particuliers en vue d'accomplir les trois missions que nous nous sommes définies. Les trois missions que j'ai exposées tout à l'heure. Le premier critère particulier, s'approprier et porter le projet d'Église. Ça peut paraître évident, mais c'est un critère qui implique une certaine capacité d'intégration et de restitution d'un projet collectif qui dépasse sa propre personne et sa propre sensibilité. Le deuxième critère, c'est la sensibilité aux cinq cercles de personnes fréquentant l'Église. Vous vous souvenez, les cinq cercles, à l'extérieur, nos prochains. On va vers le centre, les réguliers, les membres matures et au centre, les serviteurs. Gardez ces cinq cercles en vue, n'en exclure aucun. Et les cinq mouvements associés, invités, nos prochains. Accueillir les visiteurs, nos prochains, accompagner les réguliers, baptiser pour qu'ils deviennent membres, enseigner pour qu'ils enseigner pour qu'ils deviennent matures, envoyer les membres matures devenus serviteurs dans l'Église et au dehors. Troisième critère, être sensible à l'évangélisation. Je cite ici une parole d'un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer. L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Pensez à toutes ces personnes sans Dieu. Que serait un corps qui ne ressentirait pas douloureusement la séparation avec tous ses membres arrachés ? On a parlé ce matin d'arrachement. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Jésus. Ces personnes qui sont à l'extérieur sont comme des membres, devraient être pour nous comme des membres arrachés. Nous voudrions une représentation équitable des générations. Une génération, cependant, nous tient plus particulièrement à cœur. C'est celle des 20 à 35 ans. La génération, il est convenu d'appeler la génération Y. Et à son sujet, je veux lire ce que j'ai trouvé dans un des cahiers de l'école pastorale. C'est génial, mon signe a glissé. Donc il va falloir le retrouver. Ah, il était bien là, mais... Les gènes Y, alors génération Y, hein, n'attendent qu'une chose. Que l'Église soit capable de les rejoindre dans leurs besoins et spécificités. Ils n'ont pas perdu l'intérêt pour la foi, au contraire. Celle-ci devient à nouveau un élément important de leur développement. Car dans leur recherche intense de sens, une autre valeur que l'on croyait disparue est peut-être en train de faire son retour. La religion, ou du moins la quête spirituelle. Seulement, ils ont aussi soif de trouver du sens à leur acte, à leurs actes, dans le domaine religieux aussi. Les générations précédentes ont grandi dans un environnement éminemment religieux, se rendant à l'Église à cause d'un certain sens du devoir envers la communauté et envers Dieu. La génération X, qui représente en partie celle des parents des Y, s'est positionnée. Ils ont suivi leurs ancêtres ou ils ont claqué la porte de l'Église. La génération Y, à présent, n'a plus le carcan de la tradition. Elle cherche un sens personnel. Que ce soit de l'ordre de la formation, du bien-être spirituel, de l'amitié ou d'autres choses encore, elle veut sentir que l'Église lui apporte quelque chose. Or, cet intérêt personnel suscite l'attachement et la persévérance à la communauté de l'Église locale. Il s'agit donc de le favoriser, non pas à tout prix, mais tant que cela semble juste et adéquat à la lumière de l'Évangile, plutôt que de le combattre pour exiger des gènes Y qu'ils comprennent enfin le sens de la communauté, comme l'ont si bien fait leurs prédécesseurs. Notons encore que la génération Y n'est pas une génération passive. Elle est prête à s'investir lorsqu'elle considère que cela vaut la peine, et là où elle trouve une expression de la foi authentique qui se vit par des actions concrètes. C'est une génération avec laquelle on peut redécouvrir tout à nouveau la mission de l'Église, l'engagement social, les actions humanitaires. La génération Y peut répondre plus favorablement à ce genre d'activité qu'à l'assistance à une prédication magistrale. De plus, les jeunes Y aiment exprimer leur avis et être entendus. Dès lors, pourquoi ne pas leur laisser la parole et la place pour l'organisation d'une activité qui leur corresponde ? Ils auront eux-mêmes plus de facilité à entraîner leurs congénères que lorsque l'invitation vient du pasteur ou de l'instance d'autorité de l'Église. N'hésitons donc pas à leur donner des responsabilités lorsqu'ils en expriment le désir. Autre critère particulier, voudrions avoir le souci des personnes faibles. Tout apôtre et évangéliste qu'il était reconnu, Paul a reçu de Pierre, Jacques et Jean, lors du Concile de Jérusalem, la recommandation de se souvenir des pauvres. Les pauvres qui étaient les faibles de son temps. Aujourd'hui, si la pauvreté matérielle n'a pas disparu, loin s'en faut, d'autres formes de faiblesse viennent frapper à la porte de notre Église. Parmi les quatre diacres qui restent au Conseil aujourd'hui, aucun homme. Bien sûr, nous nous réjouissons d'avoir des femmes diacres. Elles sont une vraie bénédiction, mais nous aimerions voir des hommes prendre eux aussi leurs responsabilités à l'égard de l'Église. Et enfin, nous recommandons fortement aux candidats d'être membres d'un groupe de maison, non pas par principe ou avec l'idée d'un service minimum, mais parce que dans les groupes de maison, nous nous mettons à l'école du Seigneur. Et dans nos cercles, l'école est celui dans lequel le membre grandit en maturité. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans le passage aux Éphésiens. Il était question de croissance en maturité autant qu'en sagesse. Et dans à l'école, dans les groupes de maison, on grandit en maturité et pas seulement en fraternité comme on l'entend trop souvent. Le groupe de maison n'est pas que le lieu de la tisane et des petits fours entre amis. Il est avant tout celui du partage de la parole de Dieu, de la prière, de la remise en question personnelle, peut-être de la confession et de la prise de résolution, un lieu où on partage nos fardeaux et où se remportent des combats spirituels, personnels et collectifs. Voilà donc pour nos critères particuliers, les critères que nous avons sélectionnés dans le cadre des trois missions du futur Conseil. Alors, il n'est pas certain, je vous l'accorde, que chacun soit en mesure de discerner et d'évaluer tous ces critères chez une autre personne. Mais ils sont aussi une toise pour la personne proposée afin qu'elle puisse s'auto-évaluer et réfléchir, le cas échéant, en quelle mesure accepter le challenge en toute connaissance de cause et de faire porter son effort sur tel ou tel point à améliorer. Il n'est pas impossible non plus que en faisant ce travail, le Seigneur vous interpelle personnellement sur une responsabilité qu'il vous appelle à prendre vous-même au sein de son Église. Une fois ce travail de discernement effectué, à la lumière des critères bibliques, puis de nos critères particuliers, et dans l'objectif de l'accomplissement des trois missions, que tout ceci a été accompli sans précipitation et dans la prière, et qu'à l'issue de ce travail et ce temps, une conviction vous anime, il sera temps de passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante, je ne vais pas la détailler ici, elle vous sera présentée par Fabrice dans quelques minutes, mais le principe est là. Tout comme corps que nous voulons unis et bien coordonnés, nous aimerions engager l'Église très en amont, c'est-à-dire dès aujourd'hui, dans cette réflexion, dans la prière, sur toutes les personnes qui constitueront le Conseil de 2018 à 2020. Prions. Seigneur, tu es la tête de cette Église. Tu es la tête de l'Église dans le monde entier, mais tu es la tête de cette Église et nous n'en cherchons pas d'autre. Par le Conseil, Seigneur, que nous voulons renouveler et élire en février, nous rechercherons les membres coordonnateurs, les organes coordonnateurs, ceux qui maintiendront l'unité, ceux qui donneront l'impulsion pour aller rentrer dans les missions que tu nous as données, que nous nous sommes fixées. Seigneur, je veux te prier que tu donnes à chacun ici le discernement des personnes, le discernement pour lui-même, de l'appel que tu adresses à chacun de tes membres pour savoir s'il est en mesure, en capacité, Seigneur, d'accomplir cette mission pour toi, au sein de ton Église. Amen.